Les éditions de l'Avenir présentent Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N. E. Dionne, lu par Christian Martin. Chapitre 8e. La colonie de Port-Royal, 1606-1607. Expédition le long de la côte atlantique. Le port fortuné. Attaque des sauvages. Retour à Port-Royal. L'escarbot et le théâtre de Neptune. La vie à Port-Royal. Poutrincourt bâtit un moulin. L'ordre de bon temps. Hiver agréable. Voisinage des sauvages. L'escarbot, historien de la Nouvelle-France. Jugement sur cet homme. Sa commisération pour les sauvages. Lettre de M. de Mont à Poutrincourt, l'informant du retrait de son privilège. Résolution de passer en France. Dernier voyage de Champlain à la rivière Saint-Jean et à l'île de Sainte-Croix. Départ pour la France. De Mont abandonne l'idée d'établir une colonie en Acadie et tourne ses regards vers le Saint-Laurent. Le voyage d'exploration que M. de Poutrincourt entreprenait pour se conformer au dessein de M. de Mont n'offre rien d'extraordinaire, et vouloir en donner toutes les péripéties serait s'exposer à des répétitions sans fin. Son premier soin fut d'aller visiter l'île de Sainte-Croix, où rien n'était changé depuis son abandon. Les jardinages avaient une assez belle apparence. On y trouva du blé en pleine maturité et de la plus belle venue. De cet endroit, on se mit en devoir de contourner les baies, de doubler les caps et d'explorer l'embouchure des rivières. C'était du temps perdu, car toute la côte, jusqu'au cap Malbar, avait été visitée, et M. de Mont n'ayant pas été satisfait, il eût mieux valu, ce nous semble, se diriger sans arrêt sur Malbar et poursuivre le voyage plus au sud en faisant une inspection minutieuse des lieux encore ignorés. C'est ce que Champlain comprit, mais ses représentations à ce sujet ne se firent pas jour ou elles furent inutiles. Choudon, le sauvage aide-chemin de la rivière Saint-Jean, et Messamouet, capitaine des Micmacs en la rivière du port de la Hève, s'étaient joints au parti de Français pour les accompagner jusqu'à Chouacouette, où, disait-il, ils voulaient contracter alliance avec Colmeschin et Marchin. Messamouet avait fait un voyage en France et avait demeuré à Bayonne chez le sieur de Grandmont, gouverneur de la ville basque. Champlain proposa à Poutrincourt de s'arrêter dans un endroit qu'il n'avait pu examiner de près dans ses voyages antérieurs. C'est un lieu charmant de la côte, offrant un asile sûr aux vaisseaux. Il fut nommé Beauport. Le 2 octobre, l'on atteignait Malbar. Les jours suivants, l'on vint mouiller dans une baie près du cap Baturier, à 12 ou 13 lieues plus loin. S'étant laissé engager par les indications des sauvages, à travers des brisants et des bancs de sable, qu'il fallut passer comme au hasard, on eut toutes les peines du monde à en sortir. On passa par-dessus une pointe de sable qui s'avançait à près de 3 lieues dans la mer. Après avoir jeté l'ancre au travers des écueils, on envoya une chaloupe pour chercher un chenal que l'on supposait devoir conduire à un port indiqué par les sauvages. Un de ceux-ci revint et fit entendre que l'on pourrait entrer par la pleine mer, offrant de piloter lui-même la grande barque. Enfin, on entra dans ce port comme par miracle, avec un gouvernail rompu que l'on avait été obligé de raccommoder avec des cordages. Ce port, qui fut estimé être à la hauteur de 42 degrés un tiers de latitude, reçut le nom de Fortuné, comme pour marquer que, si on ne l'avait à la fin trouvé, on eût été perdu. On aperçut sur le rivage 500 à 600 sauvages presque nus. Ils étaient agriculteurs et connaissaient la mode de conserver le blé au moyen de fosses creusées à 5 ou 6 pieds dans le sable sur le penchant des coteaux. Les grains étaient auparavant enfermés dans de grands sacs d'herbe, puis ils fermaient la fosse en la couvrant de plusieurs pieds de sable au-dessus du sol. Ce serait, dit Champlain, un lieu fort propre pour y bâtir et jeter les fondations d'une république si le port était plus profond et l'entrée plus sûre qu'elle n'est. M. de Poutrincourt s'y arrêta pendant plusieurs jours, et dans l'intervalle, il visita tout le pays circonvoisin et en revint enchanté. Suivant une coutume propre aux Français, depuis que Jacques Cartier mit le pied sur le sol du Canada, M. Demont avait planté une croix l'année précédente à l'entrée de la rivière Kennebecky et à Malbar. Poutrincourt en fut autant dans le port fortuné. Les sauvages, présents à cette cérémonie, crurent y voir un empiètement sur leur droit de maître du sol. Dès lors, ils donnèrent des signes de malveillance. Poutrincourt s'en aperçut, et au lieu de passer la nuit à terre avec ses gens, comme il avait fait à plusieurs reprises déjà, il donna l'ordre d'entrer dans la barque. Quatre imprudents ne jugèrent pas à propos d'obéir. Pendant la nuit, les sauvages se jetèrent sur eux en poussant des cris terribles et les mirent à mort. Réveillés par ce tapage infernal, les Français coururent à la hâte à l'endroit d'où ils venaient, mais ils ne purent qu'apercevoir les Indiens fuyant en désordre. Les quatre cadavres furent enterrés au pied de la croix et l'on retourna à la barque. Mais les sauvages, non contents d'avoir assassiné quatre personnes sans défense, revinrent sur leurs pas, exhumèrent une de leurs victimes et abattirent la croix. Quelques coups de mousquet, partis de la barque, provoquèrent une nouvelle fuite de ces barbares. Ce fut le seul incident du voyage, mais il avait été bien sérieux, et il aurait pu l'être davantage si Poutrincourt n'avait pas agi avec la prudence que l'on sait. Un cinquième avait reçu une flèche en pleine poitrine. Il nous paraît assez probable que le blessé n'était autre que Jean Duval, qui, en 1608, monta une conspiration contre la vie de Champlain quelques jours après son arrivée à Québec. Avant de quitter le port fortuné, les compagnons de Poutrincourt relevèrent la croix que ces misérables avaient profanée. À trois reprises différentes, l'on tenta de pousser les découvertes plus au sud, mais le vent contraire s'y opposa chaque fois. Alors, il fut résolu de retourner à Port-Royal. La crainte de manquer de vivres, l'approche de l'hiver, la maladie de deux Français, militaient d'ailleurs en faveur d'un prompt retour. Le résultat de ce voyage ne fut pas, en somme, d'une grande utilité. Champlain n'y apprit que peu de nouveau, puisqu'il n'avait guère été plus loin qu'en 1605, environ un demi-degré. La petite troupe fut reçue à son arrivée à Port-Royal par une réjouissance publique. L'escarbot et ses compagnons allèrent au-devant d'eux, puis les introduisirent dans le fort que l'on avait décoré d'inscriptions et de feuillages. Sur la porte d'entrée avaient été placées les armes de France, environnées de couronnes de laurier, avec la devise du roi « No protegit unus ». Au-dessus des armes de M. Demont, on lisait les mots « Dabit Deus iscoque finem ». Les armes de M. de Poutrincourt étaient aussi entrelacées de couronnes de feuilles avec la devise « In via virtuli, nulla es via ». L'escarbot avait composé un petit drame de circonstances intitulé « Le théâtre de Neptune ».
« C'est médiocre d'invention, » écrit Moreau, « plus médiocre de style. Mais il faut tenir compte du lieu où la scène se passait, ce magnifique bassin de Port-Royal, dont les eaux reflétaient la riante verdure de l'île aux chèvres et que couronnait la majesté des montagnes. Il faut tenir compte aussi de la bonne volonté des acteurs, de la joie pure des spectateurs, de l'abandon naïf de tous. Peut-être trouvera-t-on, en se figurant dans son cadre splendide, le tableau que présentait la colonie, ainsi assemblée et groupée autour de son chef, que cette nouveauté n'était ni sans attrait, ni sans grandeur.
L'hiver approchait. Cependant, la température était encore assez douce pour permettre de travailler au jardinage en vue du printemps suivant. Poutrincourt fit ériger un moulin à une lieue et demie de l'habitation près d'une petite chute de la rivière, désignée sur les cartes de Champlain et de l'Escarbot sous le nom de « Rivière du Moulin ». On y avait fait aussi dans les environs quelques essais agricoles. Pour occuper ses loisirs durant l'hiver, Champlain fit une allée sur le bord du bois pour se rendre plus facilement à un petit ruisseau fort poissonneux. La truite y abondait. Cette allée, comprenant près de 2000 pas, était le lieu favori des promeneurs. Poutrincourt avait d'abord entretenu l'idée de se rendre jusqu'au port en continuant l'ouverture du chemin du fort au ruisseau de la Truitière. Mais il l'abandonna car il lui aurait fallu abattre le bois et aplanir le terrain sur un parcours de 3 lieues et demie. L'hiver de 1606-1607 ne fut pas rigoureux et les colons de Port-Royal menèrent joyeuse vie en dépit du scorbut qui en fit mourir 7. Huit ou dix autres, bien que sérieusement malades, réchappèrent par les bons soins du chirurgien Étienne. « Nous passâmes cet hiver fort joyeusement, » dit Champlain, « et fîmes bonne chère. » Descarbot ajoute quelques détails du plus grand intérêt.
« Je dirais que pour nous tenir joyeusement et nettement, quant aux vivres, fut établi un ordre en la table du sieur de Poutrincourt, qui fut nommé l'ordre de bon temps, mis premièrement en avant par Champlain, suivant lequel ceux d'Issel table étaient maîtres d'hôtel chacun à son tour, qui était en 15 jours une fois. Or, avait-il le soin de faire que nous fussions bien et honorablement traités? Ce qui fut si bien observé que, quoique les gourmands de Deça nous disent souvent que là nous n'avions point la rue aux ours de Paris, nous y avons fait ordinairement assez bonne chère que nous saurions faire en cette rue aux ours, et à moins de frais. Car il n'y avait celui qui, 2 jours devant que son tour vint, ne fût pas mieux d'aller à la chasse ou à la pêcherie, et n'apporta quelque chose de rare, outre ce qui était de notre ordinaire. C'est bien que jamais, au déjeuner, nous n'avons manqué de saupiquet de chair ou de poisson. Et au repas du midi et du soir encore moins, car c'était le grand festin. Là où l'architriclin, ou maître d'hôtel, que les sauvages appellent Atoctegic, ayant fait préparer toutes choses au cuisinier, marchait la serviette sur l'épaule, le bâton d'office en main, le collier de l'ordre au col, et tous ceux de celui ordre, après lui, portant chacun son plat. Le même était au dessert, non toutefois avec tant de suite. Et au soir, avant de rendre grâce à Dieu, il résignait le collier de l'ordre avec un verre de vin à son successeur à la charge, et buvait l'un et l'autre.
La petite colonie française passa ainsi l'hiver, au milieu des plaisirs et agréments de toutes sortes. L'excessive abondance de la chasse leur fournissait tous les jours des mets de la plus grande délicatesse. Que dire de la variété? C'étaient les canards, les outardes, les oies grises et blanches, les perdrix, les chairs d'élan, de caribous, de loutres, d'ours, de lapins, de castors, dont l'architriclin savait
faire chose qui valait bien ce qui en est la rôtisserie de la rue aux ours.
Les sauvages rôdaient tous les jours autour du fort et, comme ils étaient amis des Français, ceux-ci leur distribuaient du pain ainsi qu'à des pauvres. On faisait cependant exception pour le sagamo Mambertou et les autres capitaines qui étaient admis à la table du maître.
« Ce peuple aime les Français, »
dit l'escarbot.
« Et en un besoin, s'armeront tous pour les soutenir. »
Mambertou jouissait à 50 lieues à la ronde d'une réputation de guerrier habile et sanguinaire. À l'époque où nous sommes, il pouvait avoir atteint sa 100e année, bien qu'il n'en annonçât pas plus de 50. Il n'avait pas encore un seul cheveu blanc. Il prétendait avoir connu Jean Cartier lors de son passage dans la baie des Chaleurs. Il y avait de cela 71 ans. Il était déjà marié et père de famille dans le temps. Ce fait assez étrange nous engage à en signaler un autre aussi frappant et que peu d'écrivains ont remarqué. Une des cartes de l'escarbot donne le nom de la roque à la montagne située dans le voisinage de l'habitation de Port-Royal. N'est-il pas permis de croire que ce fut pour rappeler le souvenir du passage dans ces contrées de Robert Val, sieur de la roque? Celui-ci, en effet, dut tenter de s'établir quelque part dans le golfe Saint-Laurent, suivant les témoignages de Charlevoix et de l'escarbot lui-même, qui croit que ce fut au Cap-Breton. Qui sait si Mumbertou ne connut pas, en 1541, le gentilhomme Picard, comme il avait pu connaître Cartier en 1534. Ce sont des conjectures qui nous paraissent raisonnables. L'escarbot nous révèle ainsi dans son Histoire de la Nouvelle-France une foule de souvenirs historiques du plus piquant intérêt. Contemporain du marquis de La Roche, qui mourut en l'année 1606, et des autres Français attirés au Canada par des intérêts divers, d'une grande mémoire et d'une imagination très vive, ses écrits en font foi, il a pu, grâce à ses avantages particuliers, recueillir une foule de faits échappés à Champlain. Les chapitres de son histoire, relatifs au séjour qu'il fit à Port-Royal, sont plus attrayants qu'un roman, et voilà pourquoi nous nous sommes complus à en détacher d'aussi nombreux extraits. L'on peut dire qu'il fut l'âme de la colonie qui bénéficia de ses services. Non seulement il encourageait ses compagnons à cultiver la terre, mais il leur prêchait d'exemple.
« Je peux dire sans mentir, »
raconte-t-il,
que jamais je n'ai tant travaillé du corps pour le plaisir que je prenais à dresser et cultiver mes jardins, les fermer contre la gourmandise des pourceaux, y faire des parterres, aligner les allées, bâtir des cabinets, semer froment, seigle, orge, avoine, fèves, pois, herbes de jardin et les arroser, tant j'avais envie de connaître la terre par ma propre expérience.
Nous l'avons vu presque s'indigner devant le choix de l'île de Sainte-Croix parce qu'on ne pouvait y faire de la culture en grand, emprisonné comme on l'était dans cet îlot aussi exigu. Quoique huguenot, l'escarbot n'était pas un mauvais élément de la colonisation. Sa conduite au moment du départ de La Rochelle n'était pas d'un protestant ni d'un impie. Il n'aimait pas les jésuites comme tous ceux qui avaient embrassé le gallicanisme ou le protestantisme. Il avait tort, mais son ignorance peut lui servir d'excuse. N'ayant pu obtenir de prêtres pour desservir les colons, il accepta avec plaisir la tâche que lui confia Poutrincourt d'instruire les autres sur leurs devoirs.
« Cela ne fut pas du tout sans fruit »,
écrit le naïf historien.
« Plusieurs m'ayant rendu témoignage qu'ils n'avaient jamais tant ouï parler de Dieu en bonne part et ne sachant auparavant aucun principe de ce qui est de la doctrine chrétienne, qui est l'état actuel auquel vit la plupart de la chrétienté. Et s'il y eut de l'édification d'un côté, il y eut aussi de la médisance de l'autre, parce que d'une liberté gallicane, je disais volontiers la vérité. Mais enfin, nous avons été bons amis. »
L'escarbot aimait les sauvages, il aurait voulu qu'on s'employât à leur conversion. Il raconte à son sujet l'anecdote arrivée à Poutrincourt. Celui-ci étant à la cour, après son premier voyage en Acadie, parlait des sauvages infidèles devant un ecclésiastique tenu pour fort zélé et disait qu'il y aurait moyen d'en convertir au moins 100 000 à Jésus-Christ. Cet ecclésiastique, que ce chiffre ne parut pas frapper, s'écria
« N'y a-t-il que cela ?»
comme pour donner à entendre que ce n'était pas suffisant pour engager un missionnaire à traverser l'océan pour opérer ce faible résultat.
« Certes !»
s'écrie l'escarbon indigné.
« Quand il n'y en aurait que la septième partie, voire encore moins, on ne devrait point la laisser perdre. Le bon pasteur, n'ayant d'entre 100 brebis une égarée, laisse les 99 pour aller chercher la centième. On nous enseigne, et je le crois ainsi, que quand il n'y eut eu qu'un homme à sauver, notre Seigneur Jésus-Christ n'eût dédaigné de venir pour lui, comme il a fait pour tout le monde. Ainsi, il ne faut point faire si peu de cas de ces pauvres peuples, quoiqu'ils ne formaient point comme dans Paris ou Constantinople. »
Dans l'Épître au roi, que l'on trouve en tête de son histoire, l'escarbot donne la mesure de sa considération pour les sauvages idolâtres.
« Pourrons-nous trouver,
dit-il,
aucune excuse valable devant le trône de Dieu, quand les peuples nous accuseront du peu de pitié que nous aurons eue et nous attribueront leurs défauts de conversion? Si nous ne savions l'état auquel ils sont, nous serions hors de reproche. Mais nous le voyons, nous le touchons, nous le sentons. Et nous n'en avons aucun souci. »
Voilà le langage des chrétiens et même d'un apôtre. L'escarbot n'était pas seulement un érudit, un poète et un catéchiste, il avait aussi des connaissances dans les arts et dans la médecine. De sorte que l'on peut dire qu'il possédait un fonds de connaissances presque universel. « Tous les jours, dit Charlevoix, il inventait quelque chose de nouveau pour l'utilité publique, et jamais on ne comprit mieux de quelles ressources peut être, dans un nouvel établissement, un esprit cultivé par l'étude. Il eût été aussi capable d'établir une colonie que d'en écrire l'histoire. » Ce jugement, porté par un jésuite, ne laisse plus guère de traces à la critique contre cet homme, critique que certains historiens ont poussée jusqu'à la malveillance, peut-être parce qu'il n'avait pas suffisamment examiné ses écrits. Avec le départ de l'escarbot et de Champlain, se ferme la plus belle page de l'histoire de Port-Royal. Ce n'est pas un chapitre, mais un livre volumineux qu'il faudrait écrire sur la naissance et le développement de la première colonie acadienne, qui en furent comme l'âge d'or. Mais en attendant que quelqu'un se laisse entraîner à écrire cette épopée, nous ajouterons quelques mots sur les derniers jours du Port-Royal de 1606, fondé par Poutrincourt, avec la coopération aussi utile qu'efficace de Champlain et de l'escarbot. Le printemps était arrivé, le soleil commençait à échauffer la terre, et œilladait sa maîtresse de regard amoureux, quand un jour, c'était le 24 mai, Mame Berthoud vient au fort avertir qu'il avait vu une voile dans la baie. Poutrincourt s'embarque aussitôt dans une chaloupe avec Chandoré et Daniel E. pour aller la reconnaître. C'était une petite barque française conduite par un nommé Chevalier, jeune Malouin, lequel était porteur de lettres adressées à Poutrincourt par M. Demont. Celui-ci lui annonçait la naissance du duc d'Orléans, second fils de Henri IV, et lui mandait de ramener ses compagnons en France. Son privilège de traite ayant été révoqué, la compagnie dont il était le chef se trouvait par le fait même dissoute. Ces lettres furent lues publiquement. L'on résolut, de consentement unanime, à repasser en France, tout en regrettant de voir évanouir de ses légitimes espérances. Ce qui n'empêcha pas toutefois une grande démonstration au sujet de la naissance du petit duc. Des feux de joie furent allumés et l'on chanta un Te Deum en signe de réjouissance. Comme il ne pouvait être question de traverser la mer avant l'arrivée du vaisseau qui devait venir chercher les colons, Poutrincourt envoya Chevalier à la rivière Saint-Jean et à Sainte-Croix pour y faire la traite. L'escarbot, qui n'avait pas encore bougé de Port-Royal, l'accompagna avec le plus grand empressement. Poutrincourt et Champlain, de leur côté, firent une exploration détaillée du fond de la baie française et, en revenant, s'arrêtèrent au port des Mines. Une fois sortis de l'embouchure du Port-Royal, ils mirent le cap au nord-est qu'en reste et longèrent 25 lieues de côte jusqu'à un promontoire assez élevé que Poutrincourt tenta d'escalader au péril de sa vie. Ce lieu fut nommé le cap de Poutrincourt. À 3 ou 4 lieues plus au nord, Champlain découvrit, dans une petite baie, une vieille croix, toute couverte de mousse et presque toute pourrie. Signe évident, dit-il, qu'autrefois il y avait été des chrétiens. Chevalier, l'escarbot et Chandoré firent un court séjour à Ouigoudi, où ils purent examiner de près la bourgade commandée par Choudon. Une bonne partie des sauvages étaient de Gaspé. Ils s'étaient arrêtés là en route pour aller porter la guerre chez les Armouchiquois. Mombertou était parti dès le commencement de juin, avec environ 400 des siens. Tous les sauvages amis, c'est-à-dire les Micmacs ou Souriquois et les Etchemins, avaient reçu la consigne l'automne précédent et durant l'hiver de se rallier à Chouaquette afin d'envahir en masse le pays ennemi. Actodine et Actodiné, deux des fils de Mombertou, servirent d'émissaires à cette occasion. Lorsque la petite troupe de Français reconnut, quelques jours plus tard, l'île Menan, les sauvages de l'Acadie étaient campés sur cette île, se rapprochant à petite journée du pays qu'ils désiraient atteindre. L'on passa outre, par crainte de ces sauvages auxquels il n'est pas prudent de se fier, surtout quand ils se sentent les plus forts, et l'on se hâta d'aborder à l'île de Sainte-Croix. Les bâtiments de M. Demont étaient assez bien conservés. Le magasin était découvert d'un côté. Le barillet de vin d'Espagne qui avait été oublié dans les caves était encore intact. On trouva dans le jardin des choux, de l'oseille et de la laitue, et dans la cour plusieurs tonneaux vides auxquels des matelots mirent le feu pour s'amuser. De l'île Sainte-Croix, l'on vint mouiller au milieu d'un groupe d'îles habitées par des sauvages. Ouagimont, leur sagamont, vint à la rencontre des Français et leur dit qu'ayant été blessé, il n'avait pu se joindre au parti de Mombertou. Ce personnage était bien connu de M. de Poutrincourt, qui lui avait demandé plusieurs fois de lui donner une fillette de 11 ans, fort gentille, pour en faire présent à la reine. Mais le sagamont n'avait jamais consenti à se séparer de son enfant. Ouagimont voulut absolument reconduire les Français qui retournèrent à Port-Royal sans pousser plus loin leurs investigations dans ces parages. En route, l'escarbot avait trouvé par hasard une mine d'acier. Poutrincourt en tira des morceaux assez gros qu'il fondit en lingots. Il en fit fabriquer un couteau pour montrer au roi. Poutrincourt et Champlain étaient rendus à Port-Royal depuis la veille. La barque qui avait été envoyée à Canseau avec une partie des ouvriers de l'habitation était aussi de retour et prête à recevoir un nouveau chargement. Une autre barque, ainsi qu'une petite chaloupe, devait servir à transporter ceux qui restaient. Avant le départ général, Poutrincourt rassembla tout le monde et proposa à quelques-uns d'entre eux de rester encore un an, promettant à chacun une barrique de vin et du blé en abondance. Mais les 8 qui se présentèrent auraient consenti à ne pas s'en aller si Poutrincourt eût augmenté leur gage. Mais il ne voulut point, de sorte que tous, du premier au dernier, décidèrent de retourner en France. Le 30 juillet, jour fixé pour le départ, les colons, excepté Poutrincourt, Champlain et sept matelots, faisaient leurs adieux à Port-Royal, le plus grand nombre pour ne plus jamais le revoir. Ceux-ci prolongeaient leur séjour afin de faire la récolte des blés dont la maturité était prochaine. Ce ne fut que le 11e jour d'août qu'ils désertèrent ce lieu si cher à leur cœur pour aller rejoindre leurs compagnons à Canseau, où le Jonas devait tous les prendre. L'escarbot, qui était de la première expédition, nous apprend qu'à 4 lieues de Canseau, ils firent la connaissance d'un vieillard basque du nom de Savalette, natif de Saint-Jean-de-Luz, qui en était à son 42e voyage transatlantique. Et comme les Terre-Neuviens n'en faisaient généralement qu'un par année, il s'ensuit que ce pêcheur avait commencé vers 1665 à rôder sur les eaux du Golfe. Savalette avait 16 hommes à gage et son vaisseau pouvait transporter 100 milliers de morues sèches. Il prétendait que sa pêche de 1607 lui vaudrait un bénéfice de 10 000 francs. L'escarbot vante beaucoup la courtoisie du vieux pêcheur basque. Poutrincourt et Champlain firent le tour de la péninsule acadienne en 16 jours, après avoir relâché au Cap Fourchu, à la Hève, à Chibouctou et dans le port de Savalette, où ils furent bien accueillis par le capitaine. Les préparatifs du départ général étant terminés, le Jonas prit la mer le 3 septembre sous la conduite de Nicolas Martin, maître de navire. On relâcha à Roscoff, dans la Basse-Bretagne, et le Jonas entrait dans le havre de Saint-Malo au premier jour d'octobre. C'est pour le gros des Français le terme du voyage. Poutrincourt, son fils et l'escarbot se rendirent au Mont-Saint-Michel et Champlain continua sa route jusqu'à Brouage après avoir séjourné 3 ans et 5 mois dans l'Acadie. L'Acadie ne fut pas cependant abandonnée à elle-même après la rentrée en France de M. de Poutrincourt et les projets de colonisation de M. de Mont rencontrèrent pour se réaliser d'autres personnes de dévouement dont Poutrincourt lui-même et son fils, bien court, ne furent pas les moins zélés ni les moins sérieux. Mais leurs entreprises se firent à la hâte et, comme le remarque Champlain, sans fondement et sans regarder au fond de l'affaire, ce qui explique leur peu de succès.
Il est fort à remarquer,
remarque M. Rameau,
combien, à cette époque, il se trouva d'hommes en France, mus par ce désir d'étendre dans le pays nouveau leur race et leur patrie. Ce sentiment revêtait dans leur esprit la forme du patriotisme le plus élevé. Au commencement du XVIIe siècle, ces idées généreuses régnaient dans toute leur nouveauté, et tous les hommes qui coopéraient à la création de l'Acadie en étaient fortement imbus. Ce fut même dans cette contrée que firent leurs apprentissages, nous le répétons, plusieurs de ceux qui devaient plus tard se distinguer sur d'autres rivages, tels que Demont, Champlain, Pontgravé et Hébert. Dans ce commerce journalier, leur esprit s'éleva, et l'expérience qu'ils acquirent ne leur fut point inutile au Canada. De sorte que l'Acadie fut non seulement notre première colonie, mais en quelque sorte une pépinière de fondateurs de colonies.
Tels furent en effet Champlain et Louis Hébert. L'amitié contractée entre eux sur les bords de la rivière de l'Équille devait se renouveler 10 ans plus tard à Paris, alors que le ramasseur d'herbes de la Pré-Ronde, après avoir de nouveau tenté le sort en Acadie, cherchait un asile pour lui et sa famille sur un autre rivage. Nous le retrouverons enfin en 1617 à Québec, défrichant les premiers arbres de la forêt, qui, depuis, s'est transformée en une ville, la plus française de l'Amérique. Dans les champs où mûrissaient naguère les blés du bonhomme Hébert, pousse aujourd'hui toute une génération d'hommes remplis de foi dans l'avenir de leur patrie parce qu'ils croient à l'agriculture et qu'ils placent dans son développement le secret de la prospérité publique. L'idée qui fit mouvoir Poutrincourt à Port-Royal était partagée par Champlain. Et tous deux furent plus intelligents et plus sérieux dans leur entreprise colonisatrice que leurs devanciers. Au lieu de travailler à s'enrichir par le commerce, comme Chauvin et les autres marchands, ils visèrent, avant tout, à créer un bon noyau d'agriculteurs et à le faire germer par la religion et la charité à l'égard des indigènes. C'est ce qui explique pourquoi Champlain n'eut jamais beaucoup de confiance dans les entreprises de Chauvin. Quant à Demont, il ne fut jamais son homme. Le plan, si cher à son cœur, d'asseoir une colonie dans les pays où fleurissaient la vigne et l'oranger, ne sourit jamais qu'à demi au futur fondateur de Québec. C'est ainsi qu'il s'en ouvrit un jour au père Coton, quand il lui représentait tout l'avantage qu'il y aurait pour la conversion des infidèles à se fixer à Québec, quand il lui assurait que le commerce pourrait se faire beaucoup plus sûrement par le fleuve Saint-Laurent qu'en Acadie, malaisé à conserver à cause du nombre infini de ses ports, qui ne se pouvait garder que par de grandes forces, joint que le terroir y est peu peuplé de sauvages, outre que l'on ne pourrait pénétrer par ces lieux dans les terres où sont nombre d'habitants sédentaires, comme on pourrait faire par la rivière Saint-Laurent, plutôt qu'aux côtes d'Acadie. Demont finit cependant par se laisser convaincre par l'évidence des faits et la force des circonstances. Comme nous le verrons plus tard, il consentit à porter ce regard du côté du Saint-Laurent, mais cette heure ne sonna que lorsque Champlain lui eut fait goûter les raisons pourquoi il était plus à propos et convenable d'habiter ce lieu qu'aucun autre. C'est alors que Champlain put enfin réaliser le rêve qu'il caressait depuis 5 ans, de fonder une colonie de Français sur les rives du grand fleuve, l'ornement du pays. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté le chapitre 8 de Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N.E. Dionne. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives et est une production 2011 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.